Je me rappelle, il y a bien des années maintenant, j'avais une table biblique à l'université de Perpignan. Et là, je l'ai fait pendant 13 ans. Et un jour, un jeune homme est venu et m'a dit, est-ce que je peux m'installer juste à côté? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, hein, la place est libre. C'était un trottoir juste devant le restaurant universitaire. Je lui ai dit, vas-y, installe-toi, c'est pas moi. Et alors il m'a dit, je suis croyant. Hein? Il m'a dit, j'ai des affiches qui. Bon. Alors, c'était en fait un peintre. Il était plus peintre que croyant. Et alors, il avait fait faire des affiches de ses tableaux. Alors, il espérait vendre ses affiches. Et il y en avait une qui m'a particulièrement attiré, c'était le chemin de la sagesse. Alors, selon sa vue artistique, il s'était projeté dans un monde où, hein, son rêve, voilà. Et c'était un homme qui chevauchait un cheval, alors c'est Pégase, hein, cheval ailé, et parmi les étoiles de l'infini. Et là, il était ce cheval, voilà, ses ailes qui le faisaient voler. Hein, c'est l'imagination, hein, je vous rappelle. Et puis, au bout, il y avait une croix. Alors, ça semblait intéressant. Mais à côté de la croix, il y avait un minaret. Et de l'autre côté, il y avait un Bouddha. Voilà. Alors, c'était le chemin de la sagesse. C'est évidemment, il était passé à côté de la sagesse. C'est si vous voulez avoir de la sagesse. Et il est vrai qu'il y a la sagesse de ce monde. La parole de Dieu nous parle de la sagesse de ce monde. Et la sagesse de ce monde, la parole de Dieu nous dit aussi que c'est une folie. Beaucoup de gens prétendent être sages et ils sont fous. Ce sont des insensés. C'est la véritable sagesse. Il y a une sagesse qui est la vraie sagesse. Après toutes les autres sagesses, c'est de la folie. C'est malheureusement ce que ce monde appelle sage, c'est une folie. C'est la sagesse de ce monde, c'est ce que notre frère Jacques dit, elle est terrestre, charnelle, diabolique. C'est-à-dire que Dieu lui-même a prononcé son jugement par la bouche de son serviteur Jacques sur cette sagesse de ce monde. C'est la sagesse de ce monde. Les gens se croient sages et ils sont fous. Ils se croient sages et ce sont des insensés. Aujourd'hui, la sagesse de ce monde, si vous l'analysez, si vous regardez, si vous suivez la sagesse de ce monde, eh bien vous verrez que pour être sage selon le monde, il faut faire certaines choses. Et quand vous les accomplissez, vous avez l'approbation de votre entourage, vous avez l'approbation de ce monde, de ce système. Mais cette sagesse, allez, imaginons que notre monde ait encore un siècle à vivre. Ce sera une folie. Oui, quand même. Voilà. Reportons-nous en arrière. Voilà. Nous avions en France un roi qui s'appelait Louis XIV. Alors, les gens qui vivaient du temps de Louis XIV croyaient qu'ils étaient sages, comme nous croyons que nous sommes sages. Et ils croyaient que leur manière de s'habiller était la plus sage qu'il y ait dans ce monde. Personne ne se serait habillé d'une autre manière, hein, si il fallait s'habiller d'une certaine manière. Eh bien, suivez la sagesse du siècle de Louis XIV. Et vous n'allez pas faire deux pas dans la rue sans qu'il y ait des gens qui se retournent. Il est fou celui-là. Ah ben oui. Mais vous n'avez fait qu'emprunter les habits. Mais emprunter les idées aussi. Emprunter les comportements. Ayez aussi le langage de cette époque. La manière de dire, faire la révérence, etc., et toutes ces choses. Et vous allez voir que les gens vont vous prendre pour un fou. Mais attendez, mais c'est la sagesse du XVIIe siècle. C'était la sagesse du XVIIe siècle. Mais la sagesse du XVIIe siècle n'est pas la sagesse du XXIe siècle. Remontez un tout petit peu. Allez. Début du 20e. Mais la sagesse du 20e n'est pas la sagesse du 21e. C'est de la folie. Les gens vont dire, mais il est fou celui-là. promenez-vous avec un chapeau haut de forme et avec une redingote et avec des. Les gens vont dire, mais il est pas bien celui-là. Il s'est échappé d'où? On a ces portes ouvertes maintenant, les asiles psychiatriques, on leur porte ouverte aussi. C'est comme ça, vous savez. C'est la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde passe, de même que sa convoitise. C'est ce qui est vrai à une époque n'est pas vrai à une autre. Ce qui est vrai sous une latitude n'est pas vrai sous une autre latitude. Si votre vérité de ce monde en Europe n'est pas vraie en Afrique, elle n'est pas vraie en Australie, ou à peu près avec l'Europe, il n'y a pas trop de différence, mais elle n'est pas vraie en Chine, elle n'est pas vraie au Japon. C'est tout à fait une autre vérité. C'est la vérité, la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde, c'est une folie. C'est la parole de Dieu nous parle de sagesse. Et la sagesse de Dieu, eh bien, elle traverse les siècles. Ce qui est vrai, ce qui est sage du temps de Salomon, est sage encore aujourd'hui. Vous prenez les proverbes de Salomon, vous lisez et vous dites, mais quand même, quelle sagesse! Mais attendez, Salomon a écrit 950 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que Salomon était plus ou moins contemporain de Bouddha. Voilà, c'est à peu près la même époque, à quelques décennies près. C'est-à-dire que la sagesse de Salomon est arrivée jusqu'à nous. Et aujourd'hui, on lit le livre des Proverbes et on se dit quand même, quelle sagesse! Vous prenez même dans plus loin encore, vous remontez et vous allez dans les livres comme l'Exode, le Lévitique, les Nombres, Deutéronome, où il y a la loi de Moïse, et vous voyez des principes qui sont donnés. Et vous dites, mais quand même, ça n'a pas changé. C'est toujours vrai. Il y a des comportements, il y a des manières de faire qui sont toujours vraies. La vérité, elle est immuable. Elle ne change pas. Les siècles peuvent passer sur la vérité. Elle restera toujours la même. La vérité reste intacte. Elle n'est pas usée par les siècles. Alors que la vérité de ce monde, la sagesse de ce monde, elle passe. Elle disparaît. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Et vous savez, il ne suffit pas d'être très âgé pour avoir vu passer la sagesse de ce monde. En une décennie, ce qui était vrai dans ce monde est devenu faux aujourd'hui. C'est le principe même des choses de ce monde. Elles passent, elles disparaissent. Et il est dit, hein, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tandis que la sagesse de ce monde passe, il y a quelque chose qui est immuable. C'est la sagesse de Dieu. C'est quand vous regardez tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu accomplit encore aujourd'hui, vous verrez, les siècles peuvent passer. Cette vérité restera toujours la même. Vous avez un jour, Jésus-Christ est devenu mon sauveur. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Et il m'a sauvé entièrement, lavé de mes péchés, j'étais réconcilié avec Dieu. C'est un moment inoubliable pour moi. Je me rappelle exactement comment les choses se sont passées. Je ne me rappelle pas disons, de la date exacte. C'est le mois de mai. Voilà, c'était un mois de mai comme celui-ci. Et c'était la semaine après l'ascension. Pour ceux qui ont un calendrier de 1969, eh bien, c'est ce jour-là. C'était en 69, une semaine après le jour de l'ascension. Et alors, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Il est devenu mon sauveur. Et il y a des personnes ici qui ont fait la même expérience. Mais les apôtres parlaient de cela. Il y a 2000 ans, quand quelqu'un acceptait Jésus-Christ comme son sauveur, il était né de nouveau, il était réconcilié avec Dieu. La paix de Dieu qu'il a mise dans mon cœur, il avait mise dans le cœur de Paul, dans le cœur de Pierre, dans le cœur de Jacques et de tous les chrétiens de cette époque. Mais la paix que Dieu a mise dans mon cœur, en tant que chrétien français, il l'a mis dans le cœur de mon frère Daniel Togolais. et béninois. Il a mis dans le cœur de mon frère ou de ma sœur qui est chinois ou qui est japonais ou qui est... C'est une vérité immuable qui passe les siècles et qui ne change pas avec les latitudes. C'est cette vérité. C'est, j'ai la joie de voir mes frères Kabyles. Eh bien, ils acceptent Jésus-Christ exactement de la même manière que moi et ils sont lavés par le même sang de Christ. Et c'est... Les églises kabyles remontent jusqu'au début de l'ère chrétienne et c'est toujours la même vérité, c'est la même sagesse. C'est quelque chose d'immuable, c'est la sagesse de Dieu. Il n'y a pas de mode, il n'y a pas de quelque chose. Vous lisez votre Bible et vous trouvez des doctrines que des gens ont déjà cru dans le passé. Et je suis désolé, il y a bien des gens qui veulent apporter des innovations à la Bible. Il n'y a pas d'innovation à donner et à apporter. Parce que la vérité reste toujours la même. Les messages que nous prêchons aujourd'hui, ce sont les mêmes que ceux qui étaient prêchés dans la première Église. Et si nous nous en écartons, c'est pour créer une fausse doctrine, une secte, quelque chose de nouveau que n'a pas connu l'Église de Dieu au cours des siècles et des millénaires passés. Vous voyez, c'est quelque chose, la sagesse d'en haut, c'est la sagesse de Dieu. Il ne faut rien rajouter à la sagesse de Dieu, parce que celui qui rajoute à la sagesse de Dieu transgresse quelque chose. Il va contre ce que Dieu a dit, à l'enseignement que Dieu a apporté. Et c'est très important de rechercher la sagesse. Parce que Jacques nous dit, lequel d'entre vous est sage, qui le montre par ses œuvres. Mais c'est une référence tout à fait au début de son épître, chapitre 1, verset 5. Il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, justement, c'est cette fameuse sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est la sagesse de Dieu. Il y a une sagesse que Dieu donne. Il y a une recherche de la sagesse. Vous savez que nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes qui ont plus de sagesse que d'autres. Et nous avons tous, je peux dire, un manque de sagesse. Si nous avons hérité d'une meilleure éducation ou d'une meilleure sagesse, eh bien, nous sommes néanmoins tous en manque d'une vraie sagesse. Vous pouvez avoir une certaine sagesse parce que il y a des gens qui sont très sages. Ils savent bien gérer leurs finances, ils savent faire une chose, une autre, ils savent bien, ils connaissent bien leur travail, ils accomplissent toutes les actions de leur vie comme il faut. Et ils s'étendent, ils ont des compétences qui sont bien reconnues, ils ont de la sagesse dans leur travail, etc. Mais la sagesse spirituelle, c'est encore quelque chose d'autre. Alors je n'ai rien dit contre la sagesse que vous avez dans votre travail. Vous avez appris, vous avez fait des études, si vous avez connaissez des langues, si vous connaissez, par exemple, vous êtes médecin ou si vous êtes de tout le métier que vous avez. Vous le connaissez bien, c'est votre métier, il y a une sagesse. Et là, il n'y a rien à condamner, hein. Cette sagesse-là, elle est bonne, mais elle est dans son cadre. Il ne faut pas la faire dépasser son cadre. Mais il y a une sagesse spirituelle et nous avons tous un manque de sagesse spirituelle. Nous avons besoin de demander à Dieu la sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut. C'est ce que Jacques nous dit. Si quelqu'un se rend compte qu'il manque de sagesse, alors qu'il la demande à Dieu. Parce que la sagesse qui vient de Dieu, elle est préférable à tous les biens de ce monde, à tout ce que ce monde peut vous offrir. Il peut vous offrir la place de président de la République s'il veut. Mais je peux dire, c'est une vraie folie, hein. Si on vous la présente et que vous êtes tenté, c'est pas une place qui est très 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 facile, hein. Je préfère la laisser à ceux qui aiment ce genre de choses. Puis, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour être président de la République, hein. Mais c'est aucun intérêt. Mais il y a une sagesse qui vient d'en haut et qui est préférable à tout ce que vous pouvez imaginer. Celui qui possède cette sagesse d'en haut, il possède un bien et une richesse inestimable, quelque chose qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. C'est la sagesse d'en haut. Je voudrais lire un passage, c'est dans les Proverbes, justement. Je vous ai parlé des Proverbes. Et c'est Proverbes, chapitre 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Et même, il y a d'autres passages où il est dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Là, c'est la science, mais un autre passage, c'est la sagesse. Et ce n'est pas la science selon ce monde. Hein. Tout à fait au début, il est dit, donc le verset 1, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Voilà. Donc c'est le but des proverbes, c'était pour connaître la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science ou le commencement de la sagesse. Il y a ce saint respect de Dieu. Alors la crainte, ce n'est pas la peur ou la terreur de Dieu. Il y a des gens qui ont confondu cela. Mais quand on connaît Dieu et que l'on a appris à marcher avec Dieu, eh bien, on a un saint respect de Dieu. On connaît sa personne. Si vous connaissez son amour, et en général, on connaît plus facilement son amour que sa sainteté et sa justice. Mais on parle beaucoup de l'amour de Dieu. Mais il y a la sainteté et il y a la justice de Dieu. Et attention, on ne joue pas avec Dieu. Il y a même un verset dans l'Épître aux Hébreux qui dit. C'est que Dieu est un feu dévorant. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. On ne s'amuse pas avec Dieu. Nous ne sommes que des humains. Et Dieu, c'est le grand Dieu. C'est le Tout-Puissant. C'est l'Éternel. C'est celui qui dépasse toute imagination et toute connaissance humaine. C'est parce que nous avons fait un petit Dieu que nous avons tant de liberté devant ce petit Dieu, et que l'on prend tant de liberté et on fait tant de choses et on pêche si facilement. Mais quand nous nous approchons du grand Dieu et que nous avons conscience que notre Dieu, c'est le grand Dieu, c'est le Tout-Puissant, il est saint et il est juste. Il est amour, d'accord, mais il est saint et il est juste. C'est quand on comprend cela, alors on a ce saint respect de Dieu qui s'appelle la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que l'on a pris la mesure de Dieu avec autant qu'il est possible dans l'être humain de prendre la mesure de Dieu. Mais on agit en conséquence et on a une vie qui est justement à la mesure de cette connaissance de Dieu. C'est une vraie connaissance. Ce n'est pas simplement une connaissance doctrinale. On connaît Dieu, il est saint, voilà. Dieu est amour, Dieu est juste. Mais toutes ces notions-là, ce sont des théories. Mais il y a un moment où l'on connaît vraiment, c'est la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Et alors, à ce moment-là, on agit d'une autre manière. On est différent par rapport aux choses qui se présentent dans la vie. Il y a des personnes qui vivent comme s'ils devaient vivre leur éternité sur la terre. J'entends parfois des conversations, des projets. Je me dis, mais attends, mon frère, tu vas vivre où? Sur cette terre ou dans le ciel pour l'éternité? C'est ton éternité, c'est dans le ciel ou sur cette terre? Et nous devons bien nous poser cette question. C'est la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est la vraie sagesse. On ne s'établit pas sur la terre. Si Dieu vous donne des moyens de vous établir sur la terre, comment dire, temporairement, prenez-les. Mais n'ayez pas des projets comme si vous alliez vivre pour l'éternité. Vous avez des. C'est même Salomon dans l'Ecclésiaste, il dit qu'il y a des personnes qui ont, dans une certaine condition, ils n'ont pas d'enfants, ils sont âgés et tout cela, et ils plantent des arbres, et il dit dans 10 ans, nous mangerons des fruits et nous aurons. Et 10 ans, et mon frère, tu as les 10 ans, tu es sûr d'avoir les 10 ans devant toi? Mais je peux te dire, mon frère, je ne suis pas sûr que tu aies 1 heure devant toi, que tu puisses disposer et dire, bon, dans 1 heure, je ferai. Beaucoup de modestie, c'est la crainte de l'Éternel. Que savons-nous de la prochaine heure? Vous savez ce que vous allez faire dans 1 heure? Un jour, je parlais avec un frère en Christ. J'aimais beaucoup ce frère, hein, on était très très amis. Et puis il me disait, eh bien, tu vois, j'ai pris ma retraite et je suis venu m'établir dans le Roussillon. Et le lendemain, sa femme m'a téléphoné et m'a dit, tu sais, Pierre est décédé. Pierre venait de décéder. On avait parlé. Il avait 66 ans. Il avait toute sa retraite devant lui. À vue humaine, mais à vue divine, voilà, c'était fini. Son heure était arrivée. On aurait pu discuter de l'avenir. Voilà, j'ai pris ma retraite, j'ai construit ma maison, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, et j'ai pris toutes mes dispositions. Toutes, presque toutes. C'est dommage, vous savez, quand on n'a pas compris que notre Dieu, c'est le grand Dieu, et qu'il est souverain dans notre vie. Il fait ce qu'il veut. Il arrête les choses au moment qu'il veut. Il est saint et il est juste. Alors il y a des personnes qui vivent près de 100 ans, et même parfois certains ont dépassé, et d'autres à 60 ans, c'est fini. Et il y a certains à 30 ans, c'est terminé. Il y a eu des personnes qui sont parties à 30 ans. Et il y en a d'autres qui sont parties. Que savons-nous? On est dans la main de Dieu. Et on a ce saint respect de Dieu et de la présence de Dieu. On dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et on acquiert dans cette sagesse aussi de l'humilité. Et on dit, Seigneur, je ne suis qu'un être humain. C'est pas moi qui décide ma vie. C'est pas moi qui décide mon avenir. Et quand on entre dans la vraie sagesse, on apprend à mettre Dieu en premier. Et à lui confier toute chose et à lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Veux-tu que je fasse ces études? C'est ta volonté qui compte. Veux-tu que je prenne ce travail? Que ta volonté se fasse. Tu veux que ta volonté se fasse. C'est la crainte de l'Éternel. C'est mettre Dieu à sa vraie place parce que nous comprenons que Dieu a une vraie place dans notre vie. Et ce n'est pas, Seigneur, bénis, je vais faire des études, bénis-les. Seigneur, je vais partir, bénis-moi. Seigneur, accompagne-moi. Mais ce n'est pas Dieu qui est comme cela, c'est nous. Seigneur, je t'accompagne. Seigneur, tu veux que j'aille à cet endroit-là, mais plutôt, tu vas à cet endroit-là et je vais avec toi. Tu vas pour ces études, c'est toi qui vas et moi je vais faire les études. Et nous sommes en collaboration avec Dieu. Nous sommes, et Paul même le disait, nous sommes ouvriers avec Dieu. Quel privilège, quelle grâce immense de pouvoir dire que Dieu est avec nous et nous sommes avec Dieu. Ce n'est pas nous qui commandons, ce n'est pas nous qui dirigeons. Nous sommes à la disposition de Dieu et nous faisons ce que Dieu nous demande. C'est les rôles, nous avons tendance à inverser les rôles et à prendre la place de Dieu et mettre Dieu à notre place. Mais ce n'est pas la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est de mettre Dieu à sa vraie place et nous à notre vraie place. C'est-à-dire, nous sommes avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. C'est Paul qui disait, je connais un homme en Christ. C'est pas Bon, on sait bien que c'est lui, hein, il parle de lui. Mais parce qu'il dit des choses, mais je connais un homme en Christ. C'est-à-dire qu'il y a Christ et il y a un homme en Christ. Et ce que l'on voit, ce n'est pas l'homme, c'est Christ. Je connais un homme en Christ. C'est là que ça s'appelle la sagesse, la vraie sagesse. La vraie sagesse, c'est de mettre sa vie entre les mains de Dieu et de dire, Seigneur, prends toute ma vie, dirige ma vie, non pas ma volonté, mais ta volonté, non pas mes plans, mais les tiens, non pas mes choix, mais tes choix. C'est, vous savez, quand un homme ou une femme, hein, a fléchi le genou devant Dieu, alors il est entré dans la vraie vie. Alors il y a une vie chrétienne que on est sauvé, on est né de nouveau. Mais la plupart des chrétiens n'ont pas fléchi le genou devant Dieu. Ils ont encore dans leur cœur le désir de Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire ça, je vais aller là. Ou même on dit même pas Seigneur. On dit oui, alors je vais faire ceci, je vais faire ça. On est sauvé, on est né de nouveau. Mais nous avons cette folie de croire que tout est entre nos mains, que c'est nous qui allons entreprendre, qui allons faire, qui allons ceci, qui allons cela. Mais je peux vous dire, c'est de la folie, parce que nous ne savons pas où nous allons. Nous sommes aveugles, nous ne connaissons pas l'avenir, et nous connaissons si peu même de notre présent et de notre environnement. Nous sommes comme des personnes qui ont une très mauvaise vue, qui distinguent les choses mais qui ne les voient pas clairement. On croit que l'on voit bien, mais en fait on ne voit pas bien. C'est parce que la réalité, les vraies réalités, nous ne les voyons pas comme il le faut. Alors nous avons des illusions. Nous croyons que nous tenons beaucoup de choses dans nos mains, que nous sommes maîtres de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous sommes? Des petits humains, dans un environnement que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Nous avons besoin d'apprendre à nous confier en Dieu et de dire Seigneur, conduis, dirige. C'est cette prière du Seigneur Jésus-Christ quand il était à Gethsémané. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il faudrait rentrer dans plus de détails avec cela. Mais c'est vrai que le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles. Et ce ne sont pas des paroles différentes que nous devons prononcer. Il y a un jour dans notre vie où on dit Seigneur, prends la première place, assieds-toi sur le trône de ma vie, dirige toute chose dans ma vie. C'est ce moment où nous découvrons le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors nous découvrons un jour la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire de mettre Dieu à sa vraie place. Dieu prend la première place. Dieu, nous le connaissons pour ce qu'il est réellement, le souverain, le Dieu tout-puissant, celui qui a toute autorité, celui qui a tout pouvoir. Et le Seigneur Jésus a pu dire après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et désormais, tout genou fléchira devant lui. Tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et même en dessous et plus bas que la terre. Tout genou fléchira. Et les genoux qui doivent fléchir le plus facilement, c'est les genoux de ceux qui lui appartiennent. Et malheureusement, combien nos genoux sont raides et ont du mal à se fléchir devant lui. Parce que nous avons tellement d'idées, mais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et elle lui sera donnée. Il n'est pas dit, et certains l'obtiendront, et une certaine élite l'auront. Non. Quand nous avons cette crainte de l'Éternel, quand nous avons demandé la sagesse, alors elle nous est donnée. Parce que cette sagesse, c'est une révélation supplémentaire de Dieu. Nous connaissons Dieu un peu plus, un peu mieux. Et surtout, de la bonne manière. C'est pas que nous avons une connaissance intellectuelle de Dieu, mais nous avons une révélation de que Dieu est bien plus grand et bien plus merveilleux que toutes nos petites pensées sur Dieu. Dieu, il est si grand, il est si grand, il dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, il remplit toutes choses, rien ne résiste à sa volonté, il dit et la chose existe, il ordonne et tout s'exécute, il dit que la lumière soit et la lumière est, et non seulement la lumière est, et elle continue à être. C'est tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut. C'est nous sommes humains, nous sommes des petits humains. Et nous sommes face au grand Dieu. Dieu n'est pas un être humain, il est Dieu. Il est au-delà de toute imagination et de toute pensée humaine. Si nous connaissons quelque chose de Dieu, c'est parce que lui, il nous l'a révélé. Parce que humainement, nous ne pourrions pas connaître le vrai Dieu. Nous aurions des multitudes de façons de Dieu qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu. Mais le vrai Dieu, il s'est révélé, il a parlé, il est venu au milieu des hommes et il nous a parlé. Dieu a été au milieu des hommes. C'est quelque chose de merveilleux pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions nous approcher de lui. Il y a eu cette révélation. Et il est nécessaire que dans notre vie, il y ait cette révélation de Dieu, cette vraie connaissance de Dieu. C'est là que le commencement de la sagesse. Vous sondez les Écritures, vous approfondissez. Et quand vous avez cette prière dans votre cœur, hein, de la sagesse, de la vraie sagesse, eh bien vous lisez, vous approfondissez et Dieu vous parle. Et il vous montre de nouvelles choses. Il vous éclaire et vous dites, mais il est cela aussi. Le Seigneur Jésus-Christ est cela. Et mon Dieu, il est ça. Et il a fait ça. Et il agit de telle manière. Et vous avez cette connaissance de Dieu, cette vraie connaissance, qui n'est pas intellectuelle. Votre Dieu vraiment devient personnel. Vous le connaissez de la vraie manière. Et alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'établit en vous. C'est ce saint respect. Et c'est ce que la parole de Dieu appelle la sagesse. C'est la sagesse qui vient d'en haut. Et Jacques nous dit, c'est qu'il le montre par ses œuvres, hein, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Comment dire, la sagesse, elle se voit. Bon, on n'est pas toujours, on ne la voit pas soi-même, hein, et c'est pas plus mal. Mais on ne la voit pas comme il faut, personnellement. Mais les autres la voient. Ils voient notre manière d'être, ils voient notre comportement, ils voient nos réactions, ils voient ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Vous allez chez le boulanger, vous achetez une baguette de pain, si vous avez la vraie sagesse, vous ne l'achetez pas de la même manière que celui qui n'a pas la vraie sagesse. Il y a quelque chose qui émane de votre personne. C'est cette douceur de la sagesse. C'est cette manière d'être qui fait que vous êtes totalement différent d'un monde qui vous entoure. Et les gens le voient. Alors si vous ne le voyez pas, les autres le verront. Il y a quelque chose qui va être différent, qui va être changé. On est chrétien, on est né de nouveau, on est réconcilié avec Dieu. C'est vrai, et c'est une très bonne chose. Mais il nous manque la plupart du temps d'entrer dans une dimension supplémentaire, c'est-à-dire être dans la vraie présence de Dieu, dans la vraie communion avec Dieu. Ce n'est pas simplement de dire « je suis chrétien » et de vivre comme le monde. Nous sommes chrétiens, mais nous vivons une vie céleste, déjà sur cette terre, une vie différente. Une manière d'être différente, un comportement différent. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il y a quand même quelque chose qui n'est pas comme tout le monde. Hein. Et les gens ne peuvent pas. Je me rappelle, j'ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises. Mais j'avais un jour, je devais faire un voyage en voiture. Et comme les voyages étaient très longs, il n'y avait pas d'autoroute à cette époque entre Perpignan et Toulouse. Donc, il fallait 4 heures en prenant des risques. Et pour faire 200 km, il fallait 4 heures. Et vous aviez parfois 3, 4 camions et vous dépassiez un camion, et vous en dépassiez un deuxième, et avec des risques, parce qu'il y avait deux voies. Ce qu'on appelle aujourd'hui des nationales sont beaucoup mieux que ces nationales de cette époque. Et alors, vous preniez d'énormes risques. Et alors, je prenais l'essence très tôt, disons très tard dans la nuit, et puis je partais très tôt le matin, vers 5h, 6h du matin, si bien que la route était plus calme et plus libre. Bon, voilà. Et alors, j'arrive dans la station-service, j'avais pris l'essence, et puis je vais pour payer. Et il y avait deux hommes, ils étaient en train de rire, ils étaient pliés en deux de rire, mais vraiment. Et l'histoire qu'ils se racontaient, elle était sale, que vous ne pouvez pas imaginer. Alors moi, j'ai pour principe, ça, je ris pas, hein. C'est rien à voir, hein. Ça ne m'intéresse pas. Et alors, je suis là pour payer mon essence et pour partir, c'est tout. Et alors, il avait les larmes qui lui coulaient des yeux, et je lui dis, ben, c'est telle pompe. Et il me donne, je fais mon chèque et c'est bon. Voilà, c'est si le téléphone pouvait s'arrêter. C'est le. Donc, j'ai payé mon essence. Et puis cet homme, avec les larmes qui coulaient sur ses joues, il me dit, Monsieur, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Alors, je me suis attendu à n'importe quelle question, hein, mais pas celle-là. Alors, ben, je lui dis, monsieur, je suis pasteur. Alors, je peux vous dire, il y aurait eu un ange qui serait venu là et qui lui aurait dit, l'ange du jugement, qui lui aurait dit, là, tu es condamné, tu es puni parce que tu es un impur et tu racontes des histoires sales, j'aurais pas consterné davantage. Hein. Il est resté comme ça. Ah, mais je suis parti. Des années plus tard, il y a un homme qui a ouvert juste à côté de la salle. Il y a la salle de réunion à Perpignan, et à côté juste, eh bien, il y a quelqu'un qui a ouvert un garage. Et c'était lui. Oh, monsieur le pasteur, comment allez-vous? Je l'ai rencontré une fois dans ma vie avant. Et on s'est vu même pas, allez, je ne peux pas dire des minutes, des secondes. Et en plus, il n'était pas dans son état normal, il était plié en deux de rire, il était complètement. Il a été marqué, je peux vous dire. Hein. Il y a quelque chose qui l'a secoué dans sa vie. Hein. Et je me dis, mais si j'avais ri de cette histoire sale, ou même un sourire, qu'est-ce qui se serait passé? Il m'aurait dit, qu'est-ce que vous êtes, vous, dans la vie? Il me l'aurait dit. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Ça vous regarde pas? Oh, j'ai un travail comme tout le monde. Mais là, je pouvais dire que j'étais pasteur. Parce que je n'ai pas ri. Il y a quelque chose qui m'a empêché de le faire, qui était plus fort que moi. Parce que ces choses-là, elles ne m'intéressent pas. Elles ne me passionnent pas. Je ne veux pas rire de ces histoires. Et je ne veux non seulement pas rire, pas les raconter, pas m'intéresser à ce genre d'histoires. Et c'est pour. J'ai fait un exemple sur ma personne, hein. Mais il y a des chrétiens qui ont été dans certaines circonstances où ils ont manifesté les sentiments chrétiens et les réactions chrétiennes dans certaines circonstances. Et plus tard, ils ont pu dire, je suis chrétien. Ah. Je me suis douté qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme tout le monde, parce que je vous ai vu agir. Il y a une manière d'être, parce que Dieu prend la première place. Il est vraiment reconnu comme Dieu dans votre vie. Il y a un moment où on fait ce choix. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, voilà, je suis un bon chrétien et non, il y a un moment. On demande à Dieu de nous donner cette sagesse qui vient d'en haut. Et la sagesse d'en haut, eh bien, elle vous est donnée. Et Dieu vous la donne par une révélation supplémentaire de ce que souvent c'est Jésus-Christ. Vous découvrez son caractère, vous découvrez sa personne. Dieu vous fait progresser, vous fait avancer dans la connaissance de Jésus-Christ. Je termine avec un verset qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 1:30. Or, C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est fait pour nous sagesse. Je n'en prends que le premier des mots, c'est sagesse. Il est fait pour nous sagesse. C'est-à-dire que quand vous grandissez, que vous avez fléchi le genou devant Dieu, alors vous êtes prêt à ce que Dieu vous révèle, Jésus-Christ, et qu'il devienne votre sagesse. Et vous grandissez en Jésus-Christ. Et il y a quelque chose qui se fait dans votre vie, parce que Jésus-Christ a pris la première place. C'est un jour dans ma vie, quelqu'un a pris la peine de m'expliquer ce que c'était. Et il m'a dit, tu sais, ce n'est pas difficile. C'est comme quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ. On le met à la première place. C'est un jour, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais on a tendance à reprendre la direction de notre vie. Alors, il faut que Jésus-Christ redevienne le Seigneur de notre vie. Alors, nous disons, Seigneur, prends la place de Seigneur dans ma vie. Ce n'est pas moi qui dirige. Ce n'est pas moi le maître de ma vie. C'est toi. Prends la première place. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je soumets tout à ta puissance, à ta présence, à ta personne. Non pas moi, mais toi. Prends tout. C'est où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, autant de temps, toute ma vie, je veux la passer dans ta présence, dans ta communion, dans la soumission, à ta volonté, à ta voix. Je ne veux pas disposer de ma vie. Je veux que ce soit toi qui prenne le contrôle de ma vie. C'est pour moi une image qui m'a beaucoup aidé. Je pense à mon cœur, voilà, ma personne, hein, et il y a un trône. Qui est sur le trône? C'est moi ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Alors c'est cette image que j'ai, voilà. Là, c'est toi qui as pris le trône. Alors descends vite du trône. Le trône, il est à Christ. C'est pas toi qui dois être sur le trône, c'est Christ. Et j'ai cette image toujours. Hein. Et quand je prends le contrôle de ma vie parce que je suis tombé dans un péché, alors j'ai repris le contrôle et je suis bien assis. Et là, je dis Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Je m'humilie devant toi, je reconnais mon péché, je te demande pardon. Reprends le trône de ma vie, assieds-toi de nouveau sur le trône de ma vie. Je remets tout entre tes mains, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est un acte qui doit se répéter. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez repris le contrôle de votre vie, que vous êtes de nouveau assis, sur votre trône, alors, par un acte de volonté, vous dites, Seigneur, reprends le trône de ma vie. Et s'il y a un péché par lequel vous vous êtes assis de nouveau sur le trône, vous avez pris la direction de votre vie, alors confessez-le, mettez cela en règle. Et une fois que c'est mis en règle, cédez le trône de nouveau au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui doit régner. Tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre. Et sous la terre. Et le premier genou qui doit fléchir, c'est le mien. J'attends pas que les autres fléchissent le genou avant moi. C'est moi qui fléchis le genou. Et à partir du moment où j'ai fléchi le genou, alors peut-être que d'autres vont vouloir le fléchir aussi. Mais la personne, le genou sur lequel je suis responsable, c'est le mien. Et il doit fléchir. Vous dites, c'est mon genou. C'est ma personne. Qui doit s'humilier devant Dieu et qui doit reconnaître la seigneurie de Christ, celui qui domine. C'est la sagesse d'en haut, c'est la vraie sagesse. Toute sagesse qui est de ce monde, qui vous ferait dire tu es le meilleur, tu es ceci, tu es cela, toute cette sagesse-là, elle est diabolique, elle est charnelle, elle n'a aucun cours là où nous allons. Là où nous allons, un jour nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et là, tout genou fléchira. Ceux qui ont déjà fléchi Et ceux qui ne l'ont pas fléchi, ils fléchiront quand même. Parce que ce sera irrésistible. Devant lui, on devra fléchir le genou. Et je peux vous dire, gagnez du temps. Faites-le dès maintenant. Parce que c'est la vraie sagesse. Après tout le reste, c'est de la folie. Tout ce qui vous empêche de fléchir le genou, vous dites oui, mais c'est pour ceci, j'ai ça, j'ai. Tout, c'est de la folie. Parce que la vraie sagesse, c'est celle-là. Fléchir le genou devant Christ et lui dire Seigneur, prends la première place. Il est fait pour nous, sagesse. Et alors, à ce moment-là, nous avons la vraie sagesse. C'est quand nous avons accepté, eh bien, nous avons la vraie sagesse. Et il nous donne, il prendra de ce qui est à moi, c'est le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et c'est alors à ce moment-là, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il remplit notre vie et c'est son caractère même qui se voit. C'est la douceur de la sagesse, c'est la douceur de Christ. C'est la sainteté de Christ, c'est la foi de Christ, c'est l'amour de Christ qui nous presse, c'est etc., etc., etc. C'est Christ en nous. Et cela est merveilleux, parce que c'est la sagesse, c'est la vraie sagesse. Alors ce n'est pas un exercice difficile, j'essaye de me contrôler, j'essaye de faire... Non, c'est Christ qui est notre vie, c'est cela le plus important.
Merci, nous allons chanter.